Bonjour, vous écoutez On n'a pas toutes les réponses, un podcast qui aborde le féminisme, notre quotidien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, nos réflexions, nos questionnements et nos rêves pour un monde meilleur. On n'a pas toutes les réponses est animé par Geneviève Latour, Nelly Denen et moi-même, Pauline Abel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, c'est le burn-out militant. Mais avant de commencer, on aimerait vraiment remercier la radio Beau FM à Dieppe, qui va nous produire pour les prochains épisodes.
Woot woot, ouais.
Donc, le burn-out militant, ok, on va en parler, mais avant tout, on va faire notre traditionnel check-in pour savoir comment ça va. Geneviève, est-ce que ça te dit de commencer le check-in?
Oui, certainement. Je peux dire que les choses bougent pas mal vite de mon côté. Comme vous avez remarqué, Phil n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il y avait des courses et tout ça. Parce que justement, on est le 23 novembre. Notre bébé est supposé... La date, c'est le 23 décembre. Il nous reste 4 semaines. On vient juste de déménager à Colette-Est dans un appartement vraiment, vraiment chouette, mais c'est des ajustements, il faut aller acheter des affaires pour le bébé, des affaires pour l'appartement. En même temps, il me reste 2 semaines au travail, fait qu'il y a juste beaucoup de changements et de choses qui se brassent, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Sinon, la fin de semaine passée, ma famille est descendue, ma famille habite en Ontario, près d'Ottawa, fait que c'est vraiment le fun de les voir. Ma mère et son chum nous ont vraiment aidé à s'installer dans l'appartement, là. Ça a vraiment aidé. Puis mes soeurs sont arrivées un peu plus tard. Puis je pense que ce dont j'aimerais parler, c'est une de mes amies qui a organisé un Blessing Way pour, dans le fond, m'accueillir dans la maternité puis dans mon nouveau rôle de maman. Puis l'idée, c'est comme... C'est pas du tout comme un shower qui est vraiment centré envers le bébé, mais c'est vraiment centré sur la maman. Fait que l'idée, c'est de s'entourer de mères puis de femmes puis de personnes de notre réseau pour partager un peu des... conseils, des compliments, des affirmations pour nous aider avec la naissance, l'accouchement, la préparation. Fait que ça, c'était vraiment chouette, là. Moi, c'est la première fois que j'assiste à un Blessing Way, puis c'était tout à propos de moi. Fait que c'était comme... puis on a écrit comme un livre d'affirmations que je vais pouvoir comme relire pendant que je donne naissance ou juste avant pour comme me motiver. Puis il y avait des vraiment bons conseils, fait que... Je sais pas, ça va vraiment bien. Phil puis moi, on revient de vacances aussi. On est allé dans la péninsule faire du glamping.
Trop cool.
Donc, ouais, mon check-in, pas mal positif. Puis en même temps, vraiment, tu sais, à partir de maintenant, ben c'est comme un peu de l'inconnu, là, parce que le bébé peut arriver comme presque n'importe quand d'ici 2 semaines, là. Fait que j'ai hâte. On va voir ce que ça donne. Ouais. Mais je me sens vraiment prête, puis... Phil et moi, on a vraiment hâte de rencontrer ce petit bébé-là.
Ouais. Nous aussi, on a hâte.
Mais oui.
Ah, ben merci Geneviève. Puis nous, on était là, ton Blessing Way. Mm-hmm. Et c'était vraiment cool. C'était vraiment d'entendre aussi les conseils des femmes qui ont eu des enfants ou qui n'ont pas eu d'enfants. Là. C'était une bonne façon de faire ça. Ouais. Merci. Nelly, tu veux faire ton petit check-in?
Oui. Ben, moi aussi, c'est quand même assez positif. Toujours sous le signe du travail, quand même. Ça, c'est, je pense, la chose dominante dans une vie. on ressort de toutes sortes de choses sur la scène politique. Puis au travail, ça a été particulièrement occupé par rapport à ça. Puis j'ai pas été souvent chez moi. Donc j'ai hâte aux vacances. J'ai hâte de juste me poser un petit peu, comme respirer. J'ai eu une petite séance avec toi justement de tirer les cartes, puis les cartes me disaient de me reposer, donc je pense que je vais prendre les cartes au sérieux, même si je suis pas très très spirituelle comme personne.
Les cartes ont toujours raison, Nelly.
Oui, c'est ça, écoute, je suis en train de l'apprendre, la force des cartes. Mais moi aussi, c'est positif dans le sens où j'ai été occupée, tu sais, ça m'a permis d'en profiter, puis... En même temps, il y a plein de choses qui se sont passées à Moncton dans les derniers mois aussi. Puis je pense que c'est important de le souligner. Là. Il y a eu le FICFA, il y avait la Franco-Fête, mais ça, j'ai quand même moins participé. Mais il y avait des petites fêtes ici et là. Puis ça, c'est toujours agréable. Je trouve que ça brise un peu c'est l'isolement de l'hiver. On est un peu, tout le monde devient un peu casanier, casanière là, quand l'hiver arrive. Là, on a plus envie de sortir, il fait froid. Mais on dirait que ces événements-là qui se passent au Nouveau-Brunswick, ben, ça te redonne envie de sortir, puis là, de rencontrer du nouveau monde. Puis c'est agréable. Puis là, c'est pas mal là-dedans que je suis, moi. Mais j'ai quand même hâte aux vacances.
Ouais.
Mais je n'installerai pas mon sapin de Noël avant probablement le 24 décembre, parce que c'est toujours ça que je fais, mais non, l'enlève en février, ce qui est vraiment cool.
Je comprends pas la logique de Nelly. Moi,
mais je pense qu'il faut pas la comprendre, faut juste l'embrasser.
D'accord.
Voilà mon check-in à moi.
Merci Nelly, beau check-in.
Tout en humour. Puis toi Pauline, comment ça va?
Ça va, moi je suis en quasi-hibernation aussi. Là. J'ai eu, comme tu disais, avec le travail, j'ai eu énormément de projets en même temps. Là. Le Salon du Livre de Dieppe, les matinées scolaires du FICFA, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Puis, toutes sortes de projets dans les écoles. Là, c'est fou entre septembre et décembre. Là. Donc là, la Francofête aussi, ouais. Donc j'ai un peu rien vu passer, tellement il y avait des choses qui se sont passées. Mais c'est ça, moi je suis vraiment en phase de « ok, il faut que je me repose et que j'hiberne ». Je me sens vraiment comme une marmotte en ce moment, mais j'aime ça. Puis je sens que je vais revenir à la vie plus en février, même si c'est encore l'hiver, mais on dirait que novembre... Là, ça donne... non, je peux pas. Mais j'ai hâte aux vacances. Puis je retourne voir ma famille en France là, en mois de décembre. Ça fait 2 ans que je suis pas rentrée, que j'ai pas vu mes parents et mes frères. Donc ça va faire du bien. Ça va être un petit choc culturel, je pense aussi, de rentrer après 2 ans. Donc j'ai hâte. Voilà pour le check-in. Alors, on va commencer ça. Si vous pouvez m'expliquer peut-être qu'est-ce que c'est exactement le burn-out militant, ou comment on traduirait ça en français, l'épuisement. Vous allez nous expliquer, donc je vous laisse. Geneviève, tu veux commencer?
Ouais. Oui, dans le fond, le burn-out, c'est ce qu'on peut comprendre là, qui arrive souvent en milieu de travail. Fait que c'est vraiment, je pense, comme des épisodes de stress, mais la clé, c'est vraiment que ce soit prolongé dans le temps. Fait que, tu sais, c'est un peu normal d'avoir comme un moment rushant, puis là, ça va mieux après, c'est pas nécessairement un burn-out, mais quand c'est étendu dans le temps. Puis le troisième aspect, je dirais, c'est aussi le fait que ça commence un peu à changer comme ta vision des choses ou ta vision du monde. Puis je parle d'épisodes de stress, mais ça peut être épisodes de fatigue. Ça peut se vivre un peu différemment pour tout le monde, là, mais moi, c'est ce que j'entends par burn-out, disons. Puis militant, c'est l'idée que c'est en lien avec le militantisme ou l'implication qu'on tient. Je pense que ce terme-là est surtout associé aux causes de justice sociale, fait qu'on parle beaucoup burn-out militant auprès des féministes ou des écologistes, par exemple. Fait que ça, c'est un peu comment moi je le comprends. Là.
Okay. Est-ce que tu as une autre définition ou tu veux ajouter quelque chose, Nelly?
Non, c'est pas mal la même définition que Geneviève. Moi, j'ajouterais que ce que les gens doivent comprendre, c'est aussi cette notion-là de pression. Je pense que quand on est engagé dans des milieux, on a cette volonté absolument de changer les choses. Puis parfois, tu te cognes à pas mal de murs. Puis je dis parfois, mais au final, c'est tous les jours. Là. C'est le quotidien. Là. Quand tu décides d'avoir une posture militante, c'est l'entièreté de l'extérieur qui te rappelle à quel point ta posture, en fonction de son degré de radicalité, radicalité au sens où on vient à la racine des choses, mais... je pense que c'est ça, l'extérieur te dit de te ranger. Puis je pense que l'épuisement peut aussi venir de là, c'est qu'à force de recevoir ce message-là de la part de ton environnement, ça peut être ta famille, ça peut être les médias, ça peut être comme les gens que tu côtoies, qui remettent un peu ou qui challengent ta volonté d'améliorer les choses ou de t'impliquer dans des causes sociales, là, il peut y avoir une pression assez, assez intense, tu sais, pour plusieurs de... se dire que c'est fatigant au bout de la ligne, puis il y a une remise en question de cette posture militante-là.
OK, mais là, on va peut-être un peu plus loin, j'imaginais. Est-ce que vous avez vécu ça? Puis peut-être, comment ça se manifeste, là, niveau... comment on peut voir que quelqu'un est en train de faire un burn-out militant, ou comment est-ce que vous avez vécu la chose?
Je pense que ça se vit différemment pour tout le monde. Puis comme c'est un peu dur à voir chez les autres, dans le sens que peut-être que tu viens d'organiser un gros événement puis t'es fatigué après, puis quelqu'un va te voir, va être comme « Oh, t'as de l'air fatigué », mais tu prends 2 jours pour prendre soin de toi, puis le 3e jour, tu sais, tu manges bien tout, puis ça va mieux. Ou au contraire, ben t'es toujours épuisé ou stressé. Je pense à un autre mot-clé, c'est se sentir coupable aussi.
Coupable de quoi?
De pas en faire assez ou de pas avoir, d'avoir manqué quelque chose ou de pas avoir eu les résultats escomptés si j'avais fait ça peut-être que ou etc. Moi je dirais, j'ai fait mon mémoire de maîtrise porte sur le militantisme chez les jeunes, spécifiquement les jeunes qui se sont impliqués dans la cause pour la création de l'université franco-ontarienne. Puis la majorité des gens à qui j'ai parlé, il y a une personne qui nomme comme noir sur blanc, là, j'ai fait un burn-out. Mais une grande majorité des autres personnes que j'ai interviewées, sans parler de burn-out, mais ont pris 1 année de pause ou 2 années de pause pour voyager ou pour se concentrer sur leurs études ou peu importe. Fait que c'est vraiment très commun, je dirais.
Ouais.
Pour avoir fait la recherche un peu là, comme pour se préparer à l'épisode, au niveau francophone, là, c'est un terme qui fait comme un peu... que moi, j'ai commencé à voir en juillet 2019 avec Petachnek qui a décidé de fermer. Puis là, ça comme... Paye ton burn-out militant, c'est devenu un hashtag sur les médias sociaux, puis on a commencé à en parler. Je dirais en anglais, comme depuis peut-être 2015, on en parle, mais c'est vraiment pas...
C'est tabou, quoi.
C'est ça, fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Fait que les gens ont de la difficulté à le reconnaître parce que c'est pas en milieu professionnel nécessairement que c'est un burn-out. Puis si t'es entouré, puis un peu cette culture-là dans le militantisme d'être occupé, de pas beaucoup dormir, puis c'est comme...
Puis que ça fait partie de la job, entre
c'est
guillemets.
C'est ça. Fait que tu me disais comment est-ce qu'on fait pour le reconnaître, mais je pense que comme... milieu, mouvement militant, on a du travail à faire pour vraiment faire en sorte que ça se produise pas, puisque c'est pas... Il y a une culture à changer, là, d'après moi.
Ouais. Puis, Nelly, est-ce que tu voulais chanter que tu lisais le livre de Judith Lucier, là, que j'ai pas fini d'ailleurs, qui s'appelle « On ne peut plus rien dire », puis elle parle, je suis pas encore arrivée à cette partie-là, mais elle parle de son propre burn-out, là. Ouais.
Oui.
Puis, bah, si je comprends bien aussi, là, mais c'est plus quand burnout, c'est vraiment mettre un mot sur le fait que il y en a, tu peux plus avancer, il y en a trop, et comme tu disais qu'il faut prendre une, il y en a qui arrêtent pendant un an et qui reviennent après, c'est genre t'es saturé quoi, t'as donné le maximum de toi-même dans une cause, tu peux plus physiquement, moralement avancer, si j'ai bien compris. Toi, je sens que t'as quelque chose à dire, Nelly, à propos de ça. Dis-nous tout.
Ben, c'est sûr qu'en étant... j'ai été impliquée, ben, puis je pense que j'en ai parlé déjà à l'intérieur du podcast, mais j'ai été impliquée dans la grève étudiante de 2012 à Montréal. Puis j'en ai vu pas mal autour de moi, dont moi-même, avoir un épuisement à la fin de la grève. C'est pas évident, militer. On a l'impression parfois que c'est comme presque une posture... enviable, surtout à travers les réseaux sociaux, là, parfois on a vraiment des figures de personnes militantes super positives, justement, qui participent à tout, qui sont dans tous les événements.
On est passionné aussi, là.
Et passionné, oui, puis c'est pas négatif de dire ça, mais on dirait que ça vient aussi invisibiliser, puis comme Geneviève l'a dit, des choses très réelles qui se passent dans les milieux militants où au final, l'épuisement, ben, il est beaucoup plus commun que ce qu'on pense. Ben, quand t'es impliqué dans une cause du matin au soir, puis que ça devient littéralement ton quotidien, puis c'était ça, 2012, là, on était plein d'étudiants et étudiantes qui pensaient réellement qu'on allait changer les choses de manière drastique. T'sais, au début, c'était les frais de scolarité, mais à la fin, ça a complètement changé. Là, c'était le système, c'était l'éducation, c'était le rôle de l'éducation, le rôle des universités, la création du savoir. On a tellement abordé de thèmes pour finalement, à la fin de la grève, terminer avec des résultats qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de nos ambitions. Puis ça aussi, c'est un autre facteur qui peut, selon moi, créer un épuisement. C'est que le décalage entre ce que tu voulais faire, puis ce que tu pensais pouvoir faire, puis la réalité, ben, on était pas mal à déchanter au lendemain de la reprise des cours parce qu'on disait, ben, on n'a pas réussi. Puis il y avait un petit sentiment d'échec. Puis je dis petit, mais c'est un euphémisme. Donc, là, c'était un gros sentiment d'échec.
Le burn-out fait aussi partie, enfin, ce que tu dis là, le fait d'avoir visé haut, mine de rien. Puis c'est ça qu'il faut viser haut aussi. puis que les résultats soient pas du tout, soient très minimes par rapport à ce qu'on espère, ça fait partie du burn-out. Alors, dans le sens d'une une énorme déception, si on peut dire ça, d'avoir travaillé très fort, d'avoir espéré quelque chose qui finalement.
Ça peut avoir, ça peut être avoir mis beaucoup d'efforts pour organiser une activité, que ce soit une manif ou une présentation à un comité ou peu importe, puis pas avoir les résultats escomptés. Il y a juste 20 personnes qui viennent. Il pleut. Ça, tu sais, tu te questionnes comme vraiment, est-ce que les gens comme comprennent qu'on est dans une crise climatique en ce moment, par exemple, ou que c'est urgent, tu sais? C'est comme de se dire, est-ce que je suis la seule qui lutte là-dedans? Puis vraiment de se re-questionner. Puis je pense que quelque chose que moi, je vois dans mon domaine, c'est vraiment le lien entre burn-out puis du traumatisme par procuration. Puis ça, on l'entend. C'est beaucoup revenu dans mes lectures, puis c'est ce que je vis beaucoup. En anglais, le terme, c'est vicarious trauma, qu'on traduit souvent par traumatisme par procuration. Puis la définition de ça, c'est le fait que t'es tellement... tu témoignes tellement de traumatismes ou les gens te partagent tellement leurs traumatismes que par procuration, toi, tu commences à vivre les effets aussi. Puis ça, il y a beaucoup, beaucoup de militantes au niveau, tu sais, du mouvement, moi aussi, MeToo, par exemple, ou tous ces hashtags-là. Puis Pete Hachnek, c'était ça, là, c'est dénoncer l'harcèlement de rue. Puis à un moment donné, ben, c'est à chaque jour recevoir 100 courriels de victimes d'harcèlement de rue.
C'est lourd.
Puis lire leurs témoignages. Puis de continuellement être... tu sais, de baigner là-dedans, ben à un moment donné, puis comme dans les études que j'ai faites, parce que j'ai suivi beaucoup de formations là-dessus, parce que moi, j'œuvre dans le domaine de la violence faite aux femmes, fait que c'est comme, au niveau professionnel, c'est super important d'être alerte, là, que ça existe, le traumatisme par procuration, puis veut, veut pas, il va avoir un impact de traumatisme par procuration, là, t'as pas le choix. Soit ça va être du vicarious trauma ou du vicarious resilience, de la résilience par procuration. Mais dans le cas d'un traumatisme par procuration, c'est que ça vient changer ta vision du monde. Tu te dis, je sais pas, tous les hommes sont des harceleurs de rue ou toutes les femmes ont été victimes ou, tu sais, il n'y en a pas de solution. Tu sais, pourquoi je lutte là-dedans? Parce que comme... jour après jour, tout ce que j'entends, c'est du monde qui se font violenter. Comme, est-ce que ça vaut vraiment la peine, le travail que je fais? Puis c'est comme... c'est pas peu dire, là. C'est ta vision du monde. C'est comme, c'est fondamental. C'est ton idéologie qui est en train de changer. Ou, puis on va en parler plus dans le troisième segment, je pense, mais ça peut bâtir de la résilience par procuration. Puis ça, c'est de prendre les mêmes expériences, mais que ça change ta vision du monde pour le mieux, puis de dire... ah, tu sais, j'ai ouvert la porte, il y a des femmes maintenant qui peuvent se confier à moi. Ou, ah, il y a eu ce changement ici. Puis vraiment de le faire pour devenir une meilleure personne, une personne plus empathique, une personne plus à l'écoute. Dans le cadre de mon travail, tu sais, j'ai appris à connaître des populations avec lesquelles je n'avais jamais eu la chance de travailler. Par exemple, des femmes sans-abri dans mon parcours, ce n'est pas des femmes avec qui j'avais eu la chance de travailler. Des travailleuses du sexe, etc. Puis moi, je pense que ça fait de moi une meilleure personne, tu sais. Fait que c'est de prendre ça pour la résilience, mais c'est vraiment de faire attention parce que c'est facile de tomber dans du vicarious trauma.
C'est ça, tu dis qu'il y a quand même deux... tomber du côté de la résilience, c'est plutôt positif, on va dire, mais si tu commences à être trop empathique et de faire le... comment tu dis...
par procuration.
Par procuration, oui. Le trauma par procuration, puis, c'est là où ça commence
à... Faut pas... Puis la clé là-dedans, c'est qu'il faut pas se... compter d'histoire, là, il va avoir procuration de quelque chose.
Oui,
parce que
on est des humains.
Tellement entendre parler. Je veux dire, c'est la même chose au niveau de plein de militants écologistes que je connais, qu'à un moment donné, c'est comme il y a un autre animal qui vient d'être comme extinct, puis après ça, la Terre s'est encore réchauffée de quelques degrés. Or, cette année, on a encore passé le point de non-retour un jour plus tôt que l'année dernière. C'est comme...
des mauvaises nouvelles qui s'accumulent.
C'est ça. Puis c'est comme, est-ce qu'il y a une issue à tout ça? Puis on commence à se questionner, tu sais. Fait que c'est comme, faut pas penser que tout va être beau dans le fond. Puis si on le sait déjà d'avance qu'il va y avoir traumatisme par procuration, mais là, c'est de se donner les outils peut-être pour tomber du côté de la résilience. Mais, tu sais, moi, mon mémoire, c'était auprès des jeunes, puis on nous prépare pas à ça comme jeunes. Puis au contraire, tu sais, on dit souvent comme les milléniaux veulent tellement leur balance, comme leur équilibre vie personnelle, vie sociale, mm-hmm. puis ils en demandent tellement que comme on se sent coupable de dire non ou de faire du temps pour soi parce que la génération d'avant, eux autres, ont travaillé tellement fort. Puis quand t'analyses, c'est pas... Je veux dire, on peut questionner cette logique-là, là, mais je veux dire, ça fait depuis qu'on est jeune qu'on entend un petit peu ces répliques-là. Fait que de se dire, quand je prends du temps pour moi, c'est du temps que j'enlève à la cause. Ou,
ouais. Ben, c'est intéressant. Puis on pourra certainement en parler dans le troisième segment des pistes, justement, pour éviter d'arriver dans ces situations comme ça, de mieux être préparé et mieux être outillé et d'avoir peut-être une vision un peu plus rationnelle, on va dire, de qu'est-ce qui va se passer et pas idéaliste ou justement défaitiste. Hein, mais Puis ça me faisait penser, avant de te laisser la parole, Nelly, à tous les métiers, tu sais, de la santé, tu sais, les infirmières, les infirmiers, les ambulanciers. Bon, je sais, mon père était gendarme. Enfin, ils sont confrontés à énormément des personnes en souffrance, en maltraitance ou des accidents, et mon Dieu, enfin, on en parle aussi, on en parlait pas mal, je pense, dans l'année précédente des ils disaient pas burn-out pour les ambulanciers là au Nouveau-Brunswick, mais
beaucoup de vicarious trauma. Ouais. L'affaire, c'est, je veux dire, il y a quand même du chemin à faire en milieu professionnel, mais en milieu professionnel, on dirait que c'est comme quand tu veux tracer tes boundaries, tes frontières, c'est comme moi, je travaille du 9 à 5.
Ouais.
Fait que, par exemple, moi, au niveau de la violence, si je reçois un courriel, ben je le regarderai pas jusqu'à lundi matin.
Mm-hmm.
Fait que, à un moment donné, je vais pas le voir jusqu'à temps que ça fait partie de mes heures de travail. Mais quand t'es militant, t'es pas capable de dire « Ah, ça, c'est après mes heures de militantisme mm-hmm. » parce que t'as pas d'heures de militantisme. Fait que c'est comme... C'est
puis
doublement
des fois,
plus difficile. Puis c'est encore moins parlé parce que c'est comme toi, t'as décidé de mettre de l'avant que t'allais lutter contre la violence faite aux femmes. Puis il y a toutes ces personnes-là qui sont attirées par ton travail. Mais c'est ça ton militantisme. Mm-hmm. Fait que tu peux pas dire « Ah, mais partagez-moi pas vos témoignages, par exemple. » Parce que c'est ça qui...
Oui, il y a la ligne aussi de, comme Nelly, je suis sûre que tu pourras témoigner, là, t'as ton travail qui est aussi du militantisme, mais tu essayes en effet de dire, de 9 à 5, c'est ça, et après je me relaxe, mais c'est pas forcément ça qui arrive, en effet.
Ben moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant dans le... Ben, intéressant, c'est pas dans une optique où on est en train d'essayer de l'analyser puis de le rationaliser. Dans la réalité, c'est ça que je trouve en fait le plus difficile d'œuvrer dans les domaines où on œuvre, c'est que... Oui, il y a une partie qui pourrait être de l'épuisement professionnel, mais c'est tellement floué et rendu... Les lignes sont tellement minces avec le burn-out qui, lui, pourrait être du ressort du militantisme, parce que, justement, tu peux pas le mettre sur sourdine. Mm-hmm. Moi, j'arrête pas d'être féministe après avoir quitté le RFNB.
C'est ça.
Je continue à aller dans la communauté, je continue à avoir mes coups de gueule quand je suis pas d'accord avec ce que j'entends. Puis même que parfois, je ressens une autre forme de pression, parce qu'au final, il y a aussi cette façon-là de... Est-ce que moi, comme je suis en position privilégiée en ayant ce travail-là, est-ce que moi, je suis la meilleure personne pour après ça me plaindre encore du fait qu'au final, j'ai la chance d'exercer ma passion, mon militantisme, puis d'être payée pour le faire. Puis ça, je pense que c'est important de le souligner aussi, l'aspect de la rémunération, le fait que c'est quand même professionnalisé ce qu'on fait. Mais en même temps, ça fait en sorte que tout ce qui est du ressort du militantisme peut être parfois très, très invisibilisé parce qu'au final, justement, c'est un peu comme non, mais t'en as des avantages sociaux, tu sais, t'es capable d'arrêter de lire tes courriels après 5 heures. La réalité n'est pas tout à fait ça. Tu sais, comme quand on regarde ce qui se passe, je sais pas, t'apprends encore une autre fois que telle personne veut pas changer la loi ou tu sais, se borne à dire qu'il n'y a pas de problème d'accès à l'avortement, par exemple, ben, même si mon organisme réagit là-dessus, puis oui, je parle du Premier ministre en ce moment. Même si ton organisme se positionne là-dessus, ben moi, en rentrant chez moi, ben je continue à y penser pareil. Puis je trouve ça révoltant, puis je trouve ça choquant. Puis même si techniquement, je ne travaille plus, ben je travaille encore. Là. Puis quand on en parle au café, quand on en parle, tu sais, quand on sort, on en parle tout le temps. Puis à un moment donné, moi, j'ai aussi fait ça dans ma vie. J'ai fait une coupure. Moi, il y a un an, on ne me parlait pas de féminisme après les heures de travail. Je refusais. Je me suis carrément repliée sur moi-même.
Je me rappelle.
Je pense à ma sœur qui me disait, Nelly, tu sais, j'ai l'impression que t'as comme perdu ta passion. Si tu veux plus en parler, tu sais, d'habitude, on en parle, on agit, tu sais, tu t'en vas participer aux marches et tout ça. Puis j'étais à un point où je ne voulais plus, en fait, parce que c'était trop. C'était juste, c'était mon quotidien tout le temps, de 5 à... Tu sais, tout le temps. C'était 24 heures sur 24, puis je sentais que je perdais moi-même mon identité à l'intérieur de mon féminisme, puis j'étais comme... Non, je veux parler d'autre chose. Puis je me suis repliée, tu sais. J'étais vraiment en mode comme... Non, tu sais, arrêtez de me parler de féminisme. Il y a d'autres affaires dans la vie qui existent.
Je pense que c'est correct, ça aussi, là. Puis c'est comme... C'est quand est-ce qu'on a besoin d'une pause. Puis comme je disais, dans mon mémoire, il y en a beaucoup qui ont pris une pause. Je dis pas qu'ils sont arrivés au burn-out. Ouais. Peut-être qu'ils l'ont vu venir avant, puis qu'ils ont pris des précautions, là, disons.
Ouais.
Mais quelque chose que j'aimerais ramener... Des fois, c'est pas possible de dire non. Je veux dire, si on pense, par exemple, à des personnes qui vivent de l'oppression, comme moi, l'oppression que je peux partager, c'est être une femme. Mm-hmm. Fait que je peux décider, OK, cette fin de semaine, je parle pas de violence faite aux femmes, je regarde pas Facebook, puis là, je sais pas, je m'en vais prendre une marche, puis je me fais siffler dans la rue. Ben, je l'ai vécu, tu sais, je suis... Puis, je suis comme, si on imagine une femme autochtone, une femme de couleur, une femme... avec en situation de handicap, comme à un moment donné, c'est quand tu vis l'oppression, c'est encore plus difficile
je le vois
de
partout.
Te dire, mais c'est ça, je veux dire, que tu fasses les coupures que tu veux, tu vas être opprimé là.
Ben, c'est
comme...
ça. Puis tout te ramène à ça.
Exact. Puis je suis d'accord. Puis c'est ça. Ben, c'est les lentilles après qu'on a dans toute la vie. Puis c'est drôle parce que moi, je me disais, je pourrais pas faire vos travail à vous deux, là, dans le sens, je péterais vraiment un plomb, moi. Je pense que ça serait trop intense pour moi d'être révoltée. C'est tellement des... C'est ça, faut tellement pouvoir se distancer un peu de son travail, des cas que vous avez à faire, dans ton cas, il y a beaucoup des politiques, toi, des personnes qui se font agresser en permanence, qui ont vécu des traumatismes énormes. C'est quand même, c'est fort là ce que vous faites. C'est quand même, c'est pas facile du tout. Puis c'est difficile à expliquer aussi parce que vous êtes pas comme au fond d'une mine en train de. ça se voit pas sur vous que vous faites quelque chose qui est quand même super difficile parce que vous êtes en contact avec des questions super complexes. Puis ça, je voulais rebondir sur quelque chose, mais ça va me revenir. Oui, puis c'est un choix aussi de garder ça en dehors de mon travail professionnel. C'est un choix là de que j'applique pas à des postes de travail social pur et dur là, on va dire. Et pourtant, je veux le faire, mais je me dis il faut que je garde ça en dehors de mon aspect professionnel parce que sinon ça va être trop difficile parce que j'ai ma lentille. Qui est tout le temps là. Je sors, j'ai tout le temps, je vois les inégalités partout. dès que je regarde un film, dès que je discute avec quelqu'un, tout me saute à la tête là. Donc j'imagine à quel point ça doit être difficile pour
si
vous.
Si je peux partager
aussi.
Un de mes pet peeves.
C'est quoi un pet peeve?
quelque chose que je me fais dire qui m'énerve au plus haut point là, c'est toute la notion de self-care. Que moi, je crois fondamentalement.
OK.
Mais... Combien de fois est-ce que c'est comme ah ben oublie pas de prendre soin de toi, puis il y a comme deux problèmes par rapport à ça.
Comment tu fais?
Mais c'est encore de responsabilité de l'individu. Si tu avais pris mieux soin de toi, oublie pas là, tu dois prendre soin de toi, fait que c'est de responsabilité. Puis je trouve souvent c'est fait un petit peu pour accuser comme mais pas accuser, mais dire, tu sais, si t'en as besoin, là. Ou, soit moi, je suis meilleure à faire du self-care que toi, ou moi, j'en ai pas besoin. Moi, je suis capable de juste dormir 4 heures par nuit, mais toi... Puis, je pense pas que c'est fait méchamment, là. Il y a peut-être eu quelques personnes malicieuses, là, mais très peu, là. Mais je pense qu'il faut re-questionner toute cette question.
Ouais, parce que finalement, ils personnalisent... Ils disent « OK, c'est toi qui as besoin de te calmer et non pas le système qui a besoin d'être repensé. »
Ça, c'est de la part de collègues militants là, que je parle.
Ouais.
De vraiment...
Ouais.
C'est comme... Je rêve que vraiment ce soit les organismes ou les mouvements qui sont en soi comme du community self-care, là, du self-care communautaire. Parce
qu'il
ne faut pas responsabiliser. Puis vraiment, il y a souvent, puis j'en ai parlé un petit peu, là, mais le terme que j'avais écrit dans mes notes, c'est comme cette culture du martyr au niveau des militants, qu'il faut vraiment aller changer de comme...
Culture du martyr.
Dans le sens que j'en fais tellement, puis je réponds à tous les commentaires sur Facebook, tu sais, je dors pas beaucoup, je l'ai déjà dit.
Ouais.
Ou comme, ah, là, on va aller fêter ce soir parce qu'on a travaillé. Puis il faut célébrer, fêter, mais comme, ouais. tu sais, des fois, c'est correct d'aller dormir aussi. Si ouais. toi, tu vas pas fêter, mais t'es comme, ah, comment t'es capable de venir prendre une petite bière avec nous autres ou quelque chose. Ouais. Fait qu'il y a vraiment comme ce genre de culture qu'il faut changer. Puis d'après moi, c'est possible de le changer. Là. Puis on va parler au troisième segment, mais j'ai lu un livre qui s'appelle « Pleasure Activism ». Puis ça peut être le fun du militantisme, puis ça peut être à propos de comme... de la passion, puis que d'être nourrissant, puis tout ça. Fait que je pense que, tu sais, tout ce qu'on est en train de dire, comme, moi, je dirais, quand j'ai lutté au niveau de l'Université franco-ontarienne, je revenais de prendre un an d'habiter en Espagne, puis d'enseigner l'anglais, puis le français, là. J'ai pas fait vraiment de militantisme pendant cette année-là. Je suis revenue ressourcée, puis j'ai appris à dire non, des fois, mm-hmm. puis à me faire du temps, puis à faire du temps aussi pour ma famille, ou... Puis comme, j'étais super occupée, là, je dis pas que j'ai réussi à 100%, mais comme j'y crois que c'est possible d'avoir cet équilibre-là.
Ben oui.
Mais il faut vraiment résister à la pression externe que Nelly a parlé, mais à la pression interne mm-hmm. aussi qu'on peut vivre là, de la part de comme collègues militants.
Ouais. Que les autres te culpabilisent et que toi-même, tu culpabilises.
Mm-hmm. Ouais. C'est ouais. ça, tu culpabilises de ne pas en faire assez, tu culpabilises de ne pas prendre soin de toi, tu culpabilises... Ouais, oui. de...
Puis ça, c'est ouais. ça, puis j'allais faire un lien avant de te laisser la parole, Nelly, mais on parle du milieu militant, mais tu peux faire ça pour tous les domaines de la société aussi, là, au niveau des emplois, où, tu sais, j'entends souvent les parents qui ont peur de trop en faire ou de pas assez en faire et qui culpabilisent tout le temps au travail aussi. Enfin, genre, en tout cas, cette espèce de complexe de la performance, puis de comment les autres me voient, est-ce que je suis vraiment utile, etc., etc. Donc, c'est vraiment remettre ça en...
La clé, là, au niveau militant, c'est le fait de la vision du monde qui est en train de changer. Oui. Comme, parce que si tu fais un burn-out au travail, ta vision de toi-même comme travailleur, je veux dire, c'est pas le fun, un burn-out au travail, là, je suis pas en train de dire c'est moins pire, mais au niveau militant, t'es en train de te dire le monde va jamais changer, puis est-ce que ça vaut même la peine?
Mm-hmm.
Tu sais, fait qu'il y a vraiment cet aspect-là, je pense, qui est comme n'importe différent quoi. Quand on parle de militantisme.
Mm-hmm. Ouais.
Ben moi, je voulais revenir. Ben, y a deux éléments sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'est effectivement, je pense que c'est important de mettre de l'avant que dans le militantisme, on fait face vraiment à... ça se passe à un niveau sur lequel, en plus, on n'a vraiment pas de contrôle. C'est changer la société, puis les normes sociales, là, qu'on parle d'écologie, qu'on parle de féminisme, qu'on parle de pauvreté, c'est de violence, c'est toutes des affaires qui touchent à des fondements de la société qui ne fonctionnent pas, à des institutions. C'est énorme. Quand on se donne le mandat de changer ça, on ne réalise pas qu'on est en train carrément de dire qu'on veut changer des siècles et des siècles de la manière dont la société fonctionnait. C'est un gros défi qu'on accepte quand on dit comme « oui, moi, je vais m'engager ». On ne réalise pas, mais c'est énorme. Puis l'autre chose, c'est le self-care ou l'aspect de prendre soin de soi. Moi aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve de me faire dire non, mais tu sais, c'est important de prendre soin. Puis je le sais qu'il y a beaucoup de nos collègues qui le font vraiment pas mal intentionné. Tu sais, c'est vraiment bien intentionné. Puis c'est vraiment pour que toi, tu te reposes puis que tu prennes soin de toi. Mais on oublie que ça, justement, comme tu le disais, que ça met tout le poids sur toi,
ouais.
alors qu'il y a énormément de choses qui ne reposent pas sur toi. Tu sais, moi, ouais. je veux bien, moi, les prendre, les vacances, là. Tu sais, je partirai volontiers pour les 8 prochains mois au bord d'une plage, puis je voudrais plus en entendre parler, mais c'est pas là que l'enjeu se pose pour moi. Tu sais, c'est pas la capacité ou non de prendre des vacances ou de mettre à off mon cerveau. Là. Si c'était aussi simple que ça, je le ferais. Mais c'est que ça se pose à un autre endroit. Puis moi, pour le coup, je vois apparaître un petit peu là, des c'est plus comme au niveau des amis, mais tu sais, des endroits, des espaces sécuritaires, puis ça, ben, ça vient des féministes, on le dira jamais assez, je pense. Mais tu sais, les espaces sécuritaires, les trigger warnings, tout ça, c'est des outils, puis là, on s'en va sur le troisième segment, mais tout ça, c'est des outils qui, selon moi, aident à repolitiser un petit peu l'idée de self-care. Puis c'est ça que je voulais mentionner, c'est l'idée de prendre soin de soi, puis de s'arrêter, répond aussi à une pression qui est genrée. Elle n'est pas vécue, cette pression-là, de la même manière. Elle
oui.
est genrée.
Ouais, ouais,
elle
ouais.
est genrée, puis en tant que femme, en tant que la manière dont on nous socialise, la manière dont on met de l'avant, on veut tout faire, on veut être capable de repousser les limites, on veut être capable de faire les meilleures actions possibles pour changer les choses. Puis, comme tu l'as mentionné, là, des différentes diversités de femmes, Le Self-Care, Audre Lorde, 1988, une auteure que j'encourage tout le monde à aller voir, ben, elle parlait comme quoi c'était un acte de résistance politique mm-hmm. de prendre soin d'elle en mm-hmm. tant que femme noire mm-hmm. dans un moment où les États-Unis étaient en train de changer l'ébullition sociale, puis je passe les détails, mais pour moi c'est important. Puis parfois j'ai l'impression qu'on est passé à une idée du self-care très individuelle, très dépolitisée aussi. Mm-hmm.
Puis capitaliste.
Capitaliste, parce que là maintenant, je veux dire, il y en a plein des marques qui capitalisent là-dessus, mm-hmm. puis tu sais, ils te vendent le fait de te oui. prendre soin de toi. C'est pas quelque chose qui repose comme sur une communauté ou ouais. qui est partagé, ouais. qui est collectif. Tu l'achètes, ouais. le fait de prendre soin de soi.
Ouais.
Puis je pense que cette notion-là est vraiment importante. Puis moi, c'est ça qui m'énerve dans la façon dont on parle du self-care en ce moment-là. Le self-care, c'est plus que d'aller s'acheter des choses avec marqué « prends soin de toi ». Tu sais, je pense que...
Ou d'aller dans un spa, là. C'est
mais
pas
c'est
que ça.
Ça ouais. C'est plus que ça. Ça prend une communauté, ça prend un réseau de soutien, puis ça prend que nos milieux militants réalisent à quel point c'est essentiel, puis à quel point c'est invisibilisé, puis à quel point les personnes qui le vivent n'ont pas nécessairement la capacité d'en parler non plus.
Exact. Du coup, ça nous amène peut-être au troisième segment, les pistes de solutions. À moins que vous vouliez peut-être rajouter quelque chose sur vos expériences de burn-out dans
non,
les
mais
milieux...
Moi, je suis contente qu'on en parle, parce que, comme je disais, on n'en parle pas assez au niveau militant. Puis je pense qu'il y a aussi des gens qui voient des militants en burn-out, puis ça les éloigne de vouloir devenir militant ou de vouloir s'impliquer. Fait que je pense qu'on a aussi un devoir de reconnaître ces signes-là chez nos collègues, chez soi-même, pour pouvoir, comme que ce soit un mouvement invitant pour les autres. Il n'y a personne qui est comme « Ah, moi, je vais être fatiguée tout le temps, avoir des cernes, mal manger, pas dormir. » Ça n'a pas de l'air super le fun, là.
Ouais, moi, je comprends. OK, merci. Vous avez aimé ce que vous avez entendu à « On n'a pas toutes les réponses ». Alors, on vous invite à nous écrire au courriel suivant. Podcast, onptlr@commercial.gmail.com. Vous pouvez nous suggérer d'autres sujets de discussion ou encore même des invités. Vous pouvez aussi nous suivre donc sur Instagram et sur Facebook à onptlr, comme on n'a pas toutes les réponses. Si vous n'avez pas entendu nos autres épisodes aussi, on vous conseille d'aller sur la plateforme, les plateformes en ligne. Ce que j'ai fait, moi, je me sens pas une énorme militante non plus, là. Je me suis retirée peu à peu comme de conseils d'administration ou de postes de militants, on va dire, où on avait des réunions toutes les semaines, des trucs comme ça. Et sachant que ça a fait du bien parce que je commençais à plus en pouvoir, j'avais en plus de la job, de ma vie personnelle, professionnelle, et en plus d'être impliquée dans plusieurs associations, c'était pas un burn-out, je dirais pas ça, mais je sentais que j'attendais un seuil. Donc, je m'étais dit, OK, là, non, je peux plus être en charge de choses. Je vais m'enlever ces tâches de charge. Par contre, je suis contente qu'il y en ait encore qui soient dans des postes en charge parce que, du coup, je participe aux activités et ça me donne beaucoup moins de pression sur les épaules que d'être au sein des groupes qui... organise les choses, des leaders militants peut-être. Puis ça, je pense que c'est une bonne piste, puis ça m'a fait du bien aussi, là, où je peux apprécier d'aller à une marche ou d'aller à une activité sans avoir tout le fardeau de « OK, il faut qu'on parle des stratégies et tout ». Pourtant, j'aime ça, là, mais c'était devenu trop, là. Donc, je sais pas comment...
Un petit peu dans cette piste-là, pendant notre premier podcast, je vous avais partagé, j'avais lu le livre comme « Essentialism », ça disait « Au lieu de te lancer dans 43 directions, choisis-en une, puis va beaucoup plus loin dans cette direction-là ». Puis Adrienne Mary Brown qui a écrit Pleasure Activism, c'est un de ses principes. C'est le principe du comme Hell's Yes, que dans le fond, quand tu t'impliques, il faut comme que tout ton corps vibre puis soit comme Hell's Yes, comme je veux faire ça. Puis si tu n'as pas ce oui-là, ben peut-être que tu ne t'impliques pas à ce niveau-là. Ou tu es participante, mais tu n'as pas le fardeau dont tu viens de décrire. Puis je ne dis pas que je réussis, mais c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'intégrer. Puis en même temps, le revers de ça, c'est d'être capable de dire non. Puis ça, c'est difficile, mais plus que tu es capable de dire non, bien, ça donne beaucoup plus de valeur à ton oui aussi, tu sais.
Tout à fait.
Sinon, bien, d'autres choses que moi, j'essaie de mettre en place, puis c'est dommage que Phil n'est pas ici, là, parce que Phil est comme génial à ce niveau-là, mais moi, j'ai découvert qu'avoir une routine, ça, comme, j'étais le genre de personne comme, moi, j'ai pas de routine, je suis contre les routines, puis j'étais comme, pourquoi, comme, c'est ridicule. Puis vraiment de comme, tu sais, au niveau du réveil, méditation, écrire dans mon journal avant de m'endormir, comme ça, puis comme j'avais lu, tu sais, même si c'est juste une ligne, mais si à chaque soir, t'écris dans ton journal, c'est vraiment comme une bonne habitude, puis ça t'aide un peu à comme processer qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée, puis à y réfléchir. Puis Phil puis moi, on a un 5-minute journal qu'on fait comme chaque matin et chaque soir où on,
ça, c'est cool,
on dit ce dont on est reconnaissant, puis qu'est-ce qui a fait que notre journée est bien allée. Puis on est pas mal assez régulier à le faire, puis sérieusement, comme ça fait une différence. Comme ça change vraiment. Tu commences avec qu'est-ce que tu es reconnaissant, puis tu finis avec qu'est-ce qui est bien allé dans ta journée, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est des petits trucs que moi, j'ai mis en place qui, je sais pas,
des bonnes habitudes de vie aussi, là, dans le sens, ouais, intéressant. Pinelli, toi, tu disais, il n'y a vraiment rien qui...
Mais j'ai pas de routine.
T'as pas de routine.
Je suis contre les routines. Non, c'est pas que je suis contre les routines. C'est, effectivement, j'ai un petit peu plus de difficulté à garder une routine prédéfinie, surtout, tu sais, dans le style rédigé, méditer, ça, c'est moins... J'ai une routine au travail, tu sais, ça, ça, je suis plus capable de justement mettre un... de dire non plus souvent. Ça, j'ai définitivement beaucoup appliqué ça cette année. Et ça m'a énormément libérée, pas juste ma table de travail en tant que professionnelle, mais ma tête en tant qu'être humain. Et que femme, jeune, professionnelle, immigrante, là, ça m'a beaucoup aidée de dire non. Ça a été très, très, très thérapeutique. Puis ça, je le conseille à tout le monde, dire au moins une fois non dans la semaine. C'est que moi, j'avais commencé dans le mois, parce que j'avais beaucoup de difficultés à dire non. Puis j'étais comme, OK, on va se fixer un objectif réaliste. Une fois non dans le mois. Puis après ça, ben, je dis non tous les jours. Puis ça fait de moi une personne beaucoup plus heureuse.
Bon, ben tu vois, c'est
mais
une des pistes.
L'autre chose que je dirais aussi par rapport à ça, moi j'ai l'impression que s'entourer, c'est probablement là que j'ai eu aussi le plus de... d'aspect positif qui est sorti de là, de trouver des personnes autour de toi à qui parler, tu sais, où on partage un peu justement les mêmes questionnements existentiels de justice sociale, parce que, tu sais, on se pose des questions sur où va le monde, puis est-ce qu'on va être là encore dans une quarantaine d'années, tu sais, ce genre de questions très simples qu'on se pose le samedi matin. Puis le podcast, c'est un peu la réponse à ça, on veut pas, tu sais, ça nous permet de nous réunir, puis d'en parler, puis de prendre le temps, puis on le disait dans le premier épisode, tu sais, de prendre le temps de réfléchir, puis de se questionner, puis d'admettre qu'on n'a pas les réponses, mais qu'au fur et à mesure de lecture, d'expérience, de rencontre avec comme, nos diverses expériences, quand on les met toutes ensemble, j'ai l'impression que ça aussi, moi je conseillerais à tout militant, militante, faut trouver un réseau, tu peux pas le faire seul. Puis troisième chose, les réseaux sociaux. Ça peut être drainant, répondre à tous les commentaires, surtout quand tu t'en vas dans des commentaires d'extrême droite, raciste, transphobe, homophobe. C'est pas nécessairement, pour moi en tout cas, c'était pas l'endroit ni le lieu de m'impliquer. Tu sais, je trouvais que ça, je mettais mon énergie à la mauvaise place, donc j'ai fièrement pris ma retraite en 2012. Je n'ai plus commenté depuis 2012, je ne me suis pas embarquée dans un débat politique sur les réseaux sociaux, parce que ça sert à rien.
Puis c'est prouvé, je crois, en plus, que de toute façon, tout le monde reste sur ses positions. Mais puis,
Puis il faut se demander, tu sais.
Ah ben, changer un petit peu de sujet, mais pour revenir un peu, comme trouver une communauté dans laquelle se confier, là. Puis une communauté, ça peut être une personne, ça peut être deux personnes. Puis je veux rebondir, dans le deuxième segment, Pauline t'a mentionné, tu sais, de pouvoir voir rationnellement où on est rendu, tout ça. Puis comme, moi, j'aimerais répliquer, puis en disant comme, moi, je pense qu'il faut mettre plus d'émotions dans notre façon de voir les choses. Puis je pense que de trouver une communauté, c'est ça. C'est important d'avoir une communauté, mais une communauté où on peut vraiment vivre ses émotions. Puis dire s'il y a quelque chose qui nous fait chier, dire quand on est triste, dire quand on est frustré, puis finalement, on se rend compte, non, vraiment, on était triste. Mais vraiment, d'aller explorer ces émotions-là, parce que moi, je pense que dès qu'on essaie de trop être rationnel, faut pas être juste un ou l'autre. Là, j'imagine qu'il y a un équilibre, mais les émotions, c'est tellement important, parce que...
Puis je vois pas l'un sans l'autre. Si t'es en colère, si t'es fâché contre quelque chose, c'est OK, bah pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la réalité, c'est quoi la vérité?
Mm-hmm. Non, mais des fois, ouais. C'est aussi juste correct de dire, je sais pas, je suis juste fâchée, puis je veux parler de pourquoi je suis fâchée. Voilà. Puis on analysera ouais. pourquoi une autre fois. Mais là, c'est de ça que j'ai besoin de parler avec mon safe space, ouais. puis avec ouais. ma gang, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Quelque chose qui, moi, m'aide beaucoup, c'est des quotes. Puis pendant longtemps, moi, je détestais les citations là, de « t'es bonne, t'es capable », puis des affaires de même, ça m'énervait. Là. Mais j'aime beaucoup des autrices qui ont des citations. Fait comme par exemple, puis j'en partagerai une couple, là, mais j'en ai toujours de collées dans mon bureau puis à la maison, mais une que j'aime, c'est comme « Another world is not only possible, she is on her way. On a quiet day, I can hear her breathing. » C'est Arundhati Roy qui dit ça. Puis l'idée, c'est, je vais la traduire là, un autre monde, non seulement est-ce que c'est possible, mais elle est en chemin. Puis pendant une journée tranquille, je peux l'entendre respirer. Mm-hmm. C'est juste de dire, oui, mm-hmm. le changement arrive. Ouais. Puis c'est vrai que si je prends une pause, là, même si on dirait que j'ai reculé de 40 pas dernièrement, mm-hmm. je peux l'entendre respirer ce nouveau mm-hmm. monde-là qui s'en vient, tu sais. Fait que des quotes comme ça, moi, ça m'aide vraiment de me rappeler, bon, mais ouais. pourquoi je fais le travail que je fais, puis il y en a d'autres qui pensent comme moi, tu sais. Fait que ça, c'est mm-hmm. comme un autre petit ouais. truc, là. Ça marche pas pour tout le monde, des quotes, puis moi, il y en a que je trouve ridicules. OK, Oprah. Mais comme, il y a des choses intéressantes.
Tu trouves tes personnes inspirantes, mm-hmm. puis tu lis leurs ouais. quotes. C'est intéressant. Nelly, tu voulais...
Mais en fait, je me demandais plus toi, Pauline, comment toi tu vois... Comme, trouves-tu que ces conseils-là sont plus comme applicables? Comment tu vois ça?
J'essaie de voir de... C'est que ça me fait vraiment penser, que ce soit en milieu militant ou non, là, de se demander pourquoi, peut-être... Pourquoi je fais tout ça? Oui, le côté rationnel et émotionnel. Mais de se dire, OK, on n'est pas... Est-ce que je me pousse, moi, en tant que personne, à faire tout ça pour me prouver quelque chose aussi? Puis, je sais que quand j'étais en master là, de gestion de projet humanitaire, les enseignants étaient vraiment bons là-dessus pour nous dire, OK, il faut se poser la question en tant que, par exemple, gestionnaire de projet humanitaire ou peu importe. OK, est-ce que vraiment je fais ça pour aider les gens ou aider la société à grandir, ou je fais ça parce que j'ai besoin de me dire à moi-même que je sers à quelque chose? Là, je rentre un peu dans un autre sujet, mais je trouve que quand je suis vraiment épuisée de quelque chose, je me dis, OK, mais est-ce que... Qui je suis vraiment? Est-ce que je suis vraiment juste mon travail, mon militantisme? Non, c'est pas vrai. On n'est pas... Je pense qu'on se met une barre haute aussi pour... servir à quelque chose dans le monde, là, on va dire. Puis c'est cool, là. Mais on n'est pas juste ça, puis on a le droit de faire de la quoi, des fois. Et je pense que ça met... on en parlait dans les autres épisodes, là, de... C'est pas parce que je me dis féministe que je suis parfaite dans en matière d'égalité. Oui, j'ai des réflexes complètement sexistes aussi, puis il faut les assumer. Et... Puis moi, je pareil avec l'écologie. J'ai une cause qui me tient à cœur, mais tu vois, j'ai encore... J'ai une voiture, et puis des fois, je fais des petits trajets en voiture et je culpabilise pas. C'est plate, hein?
Je pense qu'il faut... Ça revient à comme... C'est voir qu'est-ce qui est individuel, la culpabilité individuelle, puis qu'est-ce qui est collectif.
Puis tu penses, ça, j'ai l'impression que le burn-out militant, c'est un peu ça, de se dire « Wow, là, il n'y a pas que toi qui peut changer le monde. Puis si t'arrêtes, c'est pas grave, les autres vont reprendre la chaîne. Ouais, » Puis c'est juste se remettre un peu en perspective, là, en tant qu'être humain, là, C'est pour ça que quand t'arrives pas à faire de pause, c'est peut-être se dire « Wow, pourquoi ?» Parce que tout va s'effondrer autour de moi, si j'y arrive pas. Non, c'est pas vrai, on n'est pas irremplaçable. Mm-hmm. C'est peut-être un truc... on a l'impression que le monde tourne autour de nous, souvent, là. Mm-hmm. Mais c'est pas vrai. Puis,
c'est dire aussi, des fois, c'est nous qui le croyons, mais il y a aussi « Ah, je sais pas qu'est-ce qu'on ferait sans toi. » Puis à un moment donné, moi aussi, ça va peut-être se faire différemment sans moi.
Ouais.
Mais c'est ça.
Puis te dire qu'est-ce qu'on ferait sans toi, ça déculpabilise aussi de nous, de l'autre côté, on fera pas autant d'efforts que toi, donc reste, tu vois.
Je pense que tu touches à un super bon point, Pauline, puis au final, c'est une autre piste de réflexion à avoir aussi sur les solutions. Tu sais, une certaine forme de solution, là, mais effectivement, tu sais, de se dire, t'es pas seule à militer dans ces causes-là.
Non.
T'sais, justement, le but, c'est de créer des mouvements, pas des... c'est pas des figures, pas une figure unique de personne qui va au-devant de la scène pour les enjeux. Tu sais, combien de militants et militantes qu'on voit pas,
puis
mais qui sont là, puis qui travaillent au quotidien.
Les médias, ou peut-être la culture, ouais, un peu, aiment bien avoir des héros héroïnes, comme si ça reportait sur le dos d'une seule personne. Gandhi, il n'était pas tout seul. Mère Teresa non plus.
En 2012, il n'y avait pas 4 personnes dans la grève, malgré ce qui est ressorti. Il y avait des centaines de millions de personnes. Puis dans tous les autres mouvements sociaux aussi, c'est des mouvements. C'est pour ça qu'on les appelle des mouvements. Parce que le but, c'est qu'on n'est pas tout seul là-dedans.
Il faut peut-être se rappeler ça.
Ouais.
Je pense qu'il faut ramener le plaisir dans le militantisme.
Oui.
Sérieusement,
c'est
comme, qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Comme moi, je pense que c'est une question qu'il faut se poser.
Ouais.
Puis ça peut être au niveau individuel ou collectif. Ouais. Comme moi, prendre un bon bain chaud, je sais que ça m'apporte de la joie. Bon,
ben,
c'est important de se poser cette question-là. Puis le revers, bon, ben, qu'est-ce que le burn-out a de l'air chez moi? Vu que c'est différent pour tout le monde.
Ouais.
Mais si on reste dans comme, le plaisir, comme encore une fois, si je reviens à mon mémoire de maîtrise, la majorité des gens qui sont restés puis qui ont continué à militer, c'était à cause de la cause, évidemment, mais aussi à cause des amitiés, à cause qu'il y avait du fun, à cause des road trips, à cause des fous rires, à cause des souvenirs ou des inside jokes.
Ouais, communauté.
Fait que je pense que ça, c'est important. Puis même quand on organise des événements, de penser au plaisir, tu sais, puis tu sais, combien de fois est-ce qu'on skip le repas puis on continue à parler affaires pendant le repas parce qu'on est,
Ah, ça, j'aime pas ça.
Mais c'est ça, mais quand je parle là, de comme community self-care, là, c'est comme numéro un, comme prendre une pause pour manger, puis manger de la bonne bouffe locale qui est, qui apaise ton appétit, qui est bonne, qui va te ressourcer. Tu sais, fait que c'est des trucs comme ça qui, d'après moi, là, c'est super important, puis c'est tellement banalisé, mais ça vient faire une différence de si on va rester accroché ou si c'est comme on sort de là puis on est épuisé. T'sais.
Complètement. Puis c'est drôle que tu parles de nourriture, parce que la première chose qui m'a marquée quand je suis arrivée au Canada, puis c'était ça, c'est que les gens mangeaient devant leur ordinateur en 20 minutes top chrono. Puis j'étais là, what? Enfin, non, tu peux pas décrocher. Puis c'était aussi, oui, peut-être des raisons de partir plus vite du travail ou d'être plus efficace, je sais pas, mais c'est... j'avais l'impression que c'était un peu un côté de « OK, il faut être efficace tout le temps. » Et on met la nourriture un peu de côté. Oui, il faut qu'on mange parce que sinon, on tombe par terre. Mais non, ça fait partie d'une pause psychologique de se retirer au moins 30 minutes, une heure. Puis c'est drôle parce que dans le... se faire à manger aussi, prendre du... ça fait partie du self-care, encore une fois, de se dire « OK, c'est pas les autres... si je me fais pas à manger, c'est pas les autres qui vont me le faire, là, dans le sens où... »
À part si tu vas manger dans des bons restaurants qui font de la bouffe locale, comme tu as dit.
Oui, et puis, je veux dire, tout le monde le fait à sa façon, mais comme c'est tellement important
de prendre le temps.
Puis de aussi, tu sais, comme si je reviens à l'image de Essentialism, qui était comme des petites flèches qui vont partout ou une longue flèche qui va à quelque part, mais d'après moi, comme arrêter manger, ça va faire en sorte qu'on va aller beaucoup plus loin une fois qu'on a pris cette pause-là, tu sais. Puis, comme c'est juste un petit truc, mais... ça, c'est comme, quand tu le fais de façon communautaire, c'est beaucoup plus facile que de te dire « Ah, t'as rien pacté pour le lunch encore » ou de blâmer l'individu. C'est pas là où je veux aller. Là. Si tu manges mal, c'est de ta faute, c'est pas ça mon message. C'est vraiment de comme créer des espaces où on est capable de manger ensemble, manger de la bonne bouffe, prendre le temps, rire, décrocher, puis là, être ressourcé pour continuer à militer, tu sais.
Ça me fait penser, quand je travaillais à la FGFNB, il y a de 2013 à 2017, c'est ça? Souvent, ce que j'aimais beaucoup à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, là, mais on mangeait tous ensemble, on prenait une heure. Ça arrivait que quelquefois, c'était pas toujours là, mais si tout le monde était super crevé ou si c'était passé quelque chose de super, je ne sais pas... il n'y a jamais rien de dramatique, mais quand ça allait pas, on dit « OK, on va tous au café, là, on peut pas travailler, on prend une pause tous ensemble. » Puis ça, j'aimais beaucoup ce leadership-là de « OK, non, si t'es pas... » Puis je me rappelle, moi-même, j'avais eu des petits soucis. Ah si, j'ai fait un gros burn-out, en fait. Mais c'était pas un burn-out militant, mais c'était autre chose. Puis j'ai eu un bon retour de la direction, justement, et de l'équipe de « Hey, vas-y, rentre chez toi. » Puis de pas faire culpabiliser non plus. C'est super important, là, de... Mais c'est ça, encore une fois, c'était une culture au travail qui permettait ça. Je sais pas si ça se ferait tout le temps, puis je sais pas si certaines personnes le permettraient non plus, mais Oui. Donc, un changement de culture aussi. Ouais.
Ah, mais c'est clair. Mais c'est ça que c'est. Bah, pour moi... Puis, tu sais, moi, je parle moins en contexte travail, mais en contexte militant, moi, je trouve que c'est ça que ça apporte aussi. Comme être militant, c'est un changement de culture. Mm-hmm. Parce que tu t'opposes à la manière dont les choses se font actuellement. Pas parce que, tu sais, personnellement, mais parce que non, ça fonctionne pas pour plein d'individus. Puis quand ces individus-là sont, en plus de ça, marginalisés sur une composante ou l'autre de leur identité, ben c'est pire. Puis moi, à vous entendre parler, ça me fait penser à une rencontre à laquelle j'ai assisté la semaine dernière avec mon travail. C'est le Réseau d'égalité des genres du Canada. Puis au final, ben, ça fonctionne. Il y a plein de choses qu'on pourrait s'étendre là, sur... Mais je vais passer les détails, c'est pas ça qui est important. Mais ce que je trouvais super intéressant de ces rencontres-là, c'est qu'il y a eu des moments où on a carrément arrêté de travailler, puis on s'est étiré. Puis le but, c'était de créer un espace collectif. Et c'était pas comme chacun dans son coin va prendre une marche, puis là, tu reviens. C'était comme tous ensemble. On devait le faire toute la salle ensemble. On était 150 femmes et personnes à travers le Canada qui œuvront à différents niveaux dans l'égalité des genres, puis la justice. Puis ça nous a vraiment forcé. Puis j'avoue, humblement, là, au début, ça a vraiment fait, ben non, j'ai pas envie de tirer avec 150
personnes. Me dis pas ce que je dois faire.
Ben ouais, un peu genre, non, je suis trop cool pour ça. Puis après, vraiment, j'ai repensé à mon affaire. Puis en fait, vous me faites penser à ça. Puis je me dis, ben, faut aussi accepter de faire les choses différemment. Puis ça, je pense que les mouvements féministes nous montrent beaucoup ça. Puis parfois, notre première réaction, c'est de faire « Ah ben là, c'est trop émotif » ou « Ah, c'est donc tiré par les cheveux » ou « C'est trop... » Tu sais, moi, j'entends souvent ça, là, c'est quoi, c'est trop « peace and love », tu sais, c'est quoi, on va tous se mettre en cercle puis on va parler de nos émotions puis là, ça va... la société va pas avancer si on fait ça. Mais là, je réalise que tous les enjeux vont peut-être pas avancer, mais il y a une bonne partie des fondements que ça aide à avancer. Parce qu'au final, c'est un peu comme s'opposer à ce rythme effréné de manger en 20 minutes, travailler tout le temps, rentrer dans les réunions, puis faire ça en deux temps, trois mouvements, parce que ben, il faut passer à l'autre chose. C'est un peu de la décroissance au final. C'est ça que c'est.
Complètement.
On revendique le fait de ralentir.
C'est dur de ralentir,
ben,
mais c'est ça qu'il faut
dur,
faire.
Ben, c'est pas valorisé.
Non.
On valorise pas le fait de ralentir.
Je comprends, tout à fait. Mais ça, je le fais depuis ce fameux burn-out qui n'était pas militant, mais qui... autre chose. Puis ça marche, là. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, est-ce que je vais passer pour une grosse feignasse auprès des autres ? Je m'en fous, maintenant. Mais c'est vrai qu'il faut y arriver jusqu'à cette limite-là, de ralentir. Des fois, d'en faire moins. Puis c'est ça, c'est avec vous que je crois qu'on disait ça, que souvent, on nous met dans la... Tu sais, les fausses quotes aussi qu'on nous dit depuis qu'on est jeune, genre... qui ne fait rien qu'on sent, horrible, quelle horrible quote, qui ne dit rien, pardon. Et il y a aussi cette je l'ai souvent entendu, puis c'est un peu comme ça qu'on est élevé, de dire « fais ce que tu peux ». Tu sais, genre « ah, mais ça va être difficile », que ce soit à l'école, ou dans une tâche, ou dans ton travail, tes parents, ou ta famille, ou tes amis vont toujours te dire « si t'as donné ton meilleur, c'est le principal ». Ben non, des fois, t'es pas obligé de donner ton meilleur, parce qu'en disant ça... Ben fuck, ça met la barre haute là. Moi, je donne jamais mon meilleur. Je sais pas c'est quoi mon meilleur. Enfin, mon meilleur, ça serait de jamais arrêter finalement. Puis quand on te dit ça là, ben c'est pour ça qu'on vient d'être taré et puis qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Et... Mais j'ai pas donné mon meilleur. Je peux encore faire mieux. On peut toujours faire mieux. Donc je pense que moi j'ai arrêté avec ça là, dire non. Ben je ferai pas mon meilleur parce que mon meilleur, ça serait de travailler toutes les fins de semaine et puis de jamais arrêter. Donc je pense faut vraiment. C'est pas facile.
Quand on parle des enjeux sociaux, tu sais, c'est là où la liste d'épicerie s'accumule. Tu sais, on pourrait tous l'aider. Tu sais, quand tu rentres dans le milieu de la justice sociale, tout est important.
Exactement.
Tu veux tellement pas hiérarchiser les luttes que tu te dis, ah, mais là, ok, puis, là, je me concentre sur l'égalité, mais qu'est-ce qui advient de l'état de la planète ? Là, faut aussi que je milite pour la planète. Et là, tu te retrouves à embrasser comme plein de causes, puis à culpabiliser quand. Ah, ben là, t'as plus le temps, parce qu'il y a 24 heures dans une journée.
Faut vraiment
pas tout faire.
Je pense que le mot de la fin, ça serait « faut se calmer
». Puis avoir du plaisir.
Et avoir du plaisir.
Moi, j'ai des fous rires. Ça, c'est mes meilleurs souvenirs de militantisme. Là. C'est comme pleurer de joie ou faire une erreur d'orthographe puis tout le monde trouve ça tellement drôle. T'es ouais. comme, oh my God, comme je suis avec la bonne gang. Là, ouais. t'sais, comme on est...
Puis le sentiment ouais. de faire partie d'un groupe,
oui,
d'une
oui.
collectivité, d'une communauté où t'es pas seul. T'es ouais. pas seul quand t'es en justice
moi,
sociale.
Moi, je souhaite que tout le monde, là, comme leur Hells Yes, c'est ça, c'est de trouver ce groupe-là, puis que ça soit ouais. le fun à les militer. Comme ouais. la marche du climat à Moncton, là, où on était 2000 personnes, là, c'était tellement énergisant. Tu sais, comme ouais. tu sors ouais. de là, puis t'as de l'énergie, c'est ça, le militantisme. Pour moi, c'est pas les grandes cernes, puis il y a eu deux personnes qui ont showé up à la rencontre.
C'est ça.
Puis,
ou les commentaires t'sais... de t'aurais pu, t'aurais pas dû, t'aurais... il aurait fallu ça. Que. Ouais.
Puis il y en a ouais. plein de bons moment, là, puis ça marque, là, ouais. puis ça ouais. change ta vision du monde pour le mieux, puis tu peux entendre le, comme, le monde changer autour de toi pour mmh. le mieux, tu sais. Fait que mmh. moi, c'est avec ça, c'est comme, c'est possible. Il faut pouvoir reconnaître les signes du burn-out, mais il faut ouais. aussi reconnaître, c'est quoi, les signes de
quand ça marche
comment bien. Est-ce que je le sais quand j'aime faire quelque chose, puis comment est-ce que je peux faire mmh. plus de
exactement.
Ça.
Exactement.
Ben, prendre le temps. Ouais.
Prendre mmh. le temps, puis s'éloigner aussi donc de quand tu sens que t'es pas aligné là, comme tu ouais. disais, que tout ton mmh. corps est pas là, ben laisse cette cause oui. de côté, enfin cette cause, ou cette activité, ouais. ou ce truc de côté.
Ouais, ouais. Accepter.
Puis ouais, accepter que tu peux pas tout faire et que t'es mmh. pas bien dans chaque mission, on va dire.
Ouais.
Puis même si c'est une mission très noble, ben ouais. non, laisse-la de côté et puis c'est correct. Ouais.
Mmh. Puis moi, bon. Je oui. rajouterais peut-être juste un dernier.
Oui, vas-y, vas-y. Oui.
Ça serait le fun aussi, tu sais, pour les personnes qui ne sont pas militants et militantes, justement, ben, de peut-être avoir plus le réflexe de voir quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour les personnes qui nous tiennent à terre, qui, tu sais, sont vraiment impliquées, mm-hmm. puis qui peut-être on peut repérer certains signes d'épuisement ou
ouais.
Une volonté, justement, à peut-être fournir de l'aide. Mais tu sais, on peut tout être à l'écoute de ça. Mm-hmm. Ça ne devrait pas
exactement.
Reposer uniquement sur le monde militant. Je pense que...
Ouais.
Les gens à l'extérieur, comme que ce soit notre famille, nos amis, les collègues, comme tout le monde peut être à l'affût de ça, puis essayer d'améliorer les choses.
Exactement. Puis j'allais dire, tout le monde est militant aussi en soi. Là,
ouais, hein, c'est vrai. Ça... Un degré, chacun a son degré différent. Ouais.
Puis c'est drôle, tu m'as fait penser, j'ai une amie qui elle a eu un petit bébé il n'y a pas longtemps, puis elle est super occupée, puis elle s'intéresse énormément aux causes environnementales, mais elle ne sait pas par où comment faire. Puis on dirait qu'elle était déjà épuisée avant... De rentrer en action. Mmh. Elle s'informe énormément, elle fait beaucoup de choses sur Internet, mais c'est pas... Voilà. Débattre sur Internet, ça t'épuise moralement, puis t'as l'impression de pas vraiment... Mmh. C'est drôle, je disais, mais fais petit à petit, va juste te déplacer, rencontrer des gens, mais c'était drôle d'avoir cette espèce de burn-out avant de commencer.
Mmh. Mais totalement. Puis moi, je pense que c'est une chose réelle aussi, là, de s'épuiser, de pas... Moi,
culpabiliser,
j'ai des gens... Ben ouais, moi j'ai des gens proches de moi qui ne sont pas nécessairement dans l'action, tu sais, c'est pas les personnes qui vont organiser des manifs ou des marches ou qui y iront même pas, mais qui se sentent tellement interpellées puis étouffées par l'état de la société.
Que ça fige. Ouais, ouais.
Ben c'est ça que c'est, tu sais, c'est comme, mais par où je commence? Il y a tellement de choses à faire, par où je commence? Puis vraiment, la réponse à ça, c'est juste de trouver le hell yes.
Exactement.
Tu sais, pour moi, c'est ça que c'est. Commence,
ton petit
commence
groupe,
là où tu peux.
Ouais.
Puis entoure-toi. Fais-le pas tout seul. Moi, je pense que. C'est essentiel.
Venez nous parler,
mais
on vous mettra en contact.
C'est essentiel de garder en tête l'idée de mouvement. Comme c'est collectif ce qu'on fait.
Ouais.
Ça passera pas par.
C'est une belle
personne.
Quote de Nelly Denen. On n'oublie pas que c'est un mouvement.
C'est un mouvement.
Est-ce que vous avez des choses peut-être à conclure? Je pense qu'on a pas mal tout dit. Mm-hmm. Puis on mettra les livres, les lectures, les quotes, nos idées aussi sur les réseaux sociaux. Puis voilà, ben merci à vous deux et on se parle très vite.
Merci à toi, Pauline.
Merci Geneviève, merci Nelly.
Merci Geneviève.